avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, l'antenne vous appartient. Et ce matin, une question. Que se passe-t-il dans le département du Poule au Congo? Ces trois dernières semaines, les autorités ont mené des opérations militaires pour traquer le pasteur Ntoumi, qui est accusé d'être responsable des violences au début du mois dans la capitale. Mais quasiment personne, en fait, n'a eu accès aux localités bombardées. Seule une ONG a été autorisée à se rendre sur le terrain, l'ONG Caritas Congo, qui fait état d'au moins 2000 personnes déplacée, mais elle n'a fourni aucun bilan concernant les victimes civiles. En tout cas, l'opposant Guy Brice Parfait-Colella exige une enquête indépendante et dans l'entourage du pasteur Ntoumi, on réclame un dialogue sous médiation internationale. Vos réactions évidemment nous intéressent. Nous en parlerons dans 30 minutes en direct sur l'antenne d'RFI. D'ici là, vous continuez à nous appeler, à nous rejoindre. 33 9 693 693 70. Vos réactions également sur les réseaux sociaux et notamment la page Facebook de l'émission, la page RFI appelle sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter les sujets que nous traitons tout au long de la journée dans nos différents journaux. On va commencer à s'intéresser au Soudan du Sud. Vous savez que Riek Machar est finalement arrivé dans la capitale, à Djouba. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Juan.
Vous êtes en Guinée, nous vous écoutons. Quelles sont vos questions?
Tout à fait Juan. Juan, Riek Machar, le chef rebelle, est arrivé mardi au Soudan du Sud alors que sa venue était prévue pour le 23 avril. J'aimerais savoir comment ça se fait que son venue était retardée et qu'est-ce qui a débloqué la situation. Où en est l'accord de paix?
Alors, c'est vrai qu'après plus de 2 ans de guerre civile, le Soudan du Sud va peut-être retrouver le chemin de la paix. C'est en tout cas l'objectif du retour de Riek Machar dans la capitale à Djouba. Bonjour Anne Cantner.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Riek Machar n'avait pas remis les pieds à Djouba depuis le début du conflit en décembre 2013. Un retour, il faut le dire, et notre auditeur a raison de le souligner, plusieurs fois reporté.
Oui, alors Ibrahim, sa venue à Riek Machar était même prévue le 18 avril en principe. Son arrivée a été retardée à cause d'un désaccord entre son camp et le gouvernement sur le nombre d'hommes et d'armes, surtout, qu'il pouvait ramener avec lui à Djouba. Il y a eu plusieurs jours de débat, les deux camps se sont finalement mis d'accord, ils ont fixé des chiffres très précis, 195 hommes ou collaborateurs avec leur Kalachnikov, plus 20 mitrailleuses et 20 lance-roquettes. Samedi dernier, tout avait été vérifié par des observateurs internationaux. Riek Machar était même à l'aéroport. Mais finalement, le gouvernement sud-soudanais a refusé d'autoriser l'avion à atterrir à Djouba en expliquant qu'il y avait des travaux à l'aéroport. Il a donc fallu attendre 2 jours de plus pour que Riek Machar rentre enfin. Ce qui a débloqué la situation, c'est donc cet accord sur les armes et le fait que les stocks soient vérifiés par la communauté internationale. D'ailleurs, la plupart de ces armes et des hommes sont arrivés en fait lundi, Riek Machar lui le lendemain, dans un avion des Nations Unies. C'est l'Union africaine en fait qui avait interpellé l'ONU en expliquant que bon, maintenant il fallait plus trop traîner. Donc les Nations Unies ont envoyé un avion à Gambela, en Éthiopie, où se trouvait Riek Machar, pour le ramener à Djouba.
Alors Riek Machar est de retour, un retour qui est d'ailleurs prévu par les accords de paix signés en août dernier. Dès son arrivée, il a prêté serment, donc il est de nouveau vice-président. Où en sommes-nous maintenant dans l'application de cet accord de paix signé il y a 8-9 mois?
Mais pour l'instant, on en est vraiment tout au début. Les violences se poursuivent loin du regard des médias et ce sont principalement les civils qui en souffrent le plus. L'une des principales mesures de cet accord de paix, donc signé en août, c'était justement le retour de Riek Machar et sa nomination au poste de vice-président. C'est donc la première étape seulement. Cet accord prévoit aussi le partage du pouvoir. Donc maintenant, Riek Machar et le président Salva Kiir vont devoir former un gouvernement ensemble. L'accord de paix imposait aussi un cessez-le-feu qui n'est pas vraiment respecté pour l'instant. On peut espérer que le retour du chef des rebelles permettra de faire changer les choses. Mais il faut rester très prudent car dans les deux camps, il y aura sans doute des hommes qui refuseront d'obéir aux ordres. Les insurgés, comme le gouvernement, se sont alliés pendant la guerre à des milices ou à des tribus qui sont assez indépendantes et dont on ne sait pas pour l'instant si elles respecteront l'accord de paix.
À suivre donc. Merci Anne Cantner d'être venue répondre à Ibrahim qui nous appelait de Conakry. En Guinée, il est 10h15 ici à Paris. Ce sont vos questions à la rédaction. Vous continuez évidemment à nous appeler 33 9 693 693 70. Henri nous rejoint. Bonjour Henri.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes au Congo, vous nous appelez de Pointe-Noire et vous avez des questions concernant le Mexique et la légalisation du cannabis.
Oui Juan. Le président mexicain a légalisé l'usage thérapeutique du cannabis. Alors j'aimerais savoir comment expliquer ce revirement alors que le président était contre tout un fléchissement sur la politique de la drogue.
C'est vrai que c'est une décision qui peut surprendre, Henri, quand on sait que le président Enrique Peña Nieto a longtemps été opposé à toute dépénalisation de la consommation de cannabis. Jean Rivlois est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement, vous enseignez à Paris 1 et Paris 3, et vous êtes spécialiste des phénomènes de violence et de corruption liés au trafic de drogue au Mexique. Ce qu'il faut préciser à nos auditeurs dès le début, Jean Rivlois, c'est que cette décision du président n'a pas été prise à la légère. Le Mexique a organisé ces derniers mois un vrai débat national autour de la question, autour de la marijuana.
Oui, le président mexicain a organisé un débat national où ont été conviés toutes les ONG, les associations qui ont un rapport avec les effets de la répression du trafic de drogue. Et la conclusion a été assez évidente, c'est la conclusion à laquelle arrivent tous les experts du monde entier, c'est que la politique de prohibition qui a été mise en place en 1961 et qui vise à interdire la production, la consommation, la détention, le trafic de toutes les drogues est un échec. Alors c'est un échec parce que elle a abouti à la criminalisation de tous les acteurs de la chaîne commerciale, que ce soit les paysans, les trafiquants, les consommateurs, à l'apparition de mafias qui sont de véritables cartels, à la militarisation de la sécurité publique dans les États producteurs, ainsi qu'à la marginalisation sociale des consommateurs. Et pour toutes ces raisons, les experts proposent d'adopter une autre forme de réglementation qui consiste justement à décriminaliser la consommation d'abord et éventuellement la production, c'est ce qu'on appelle la légalisation. Alors dans le premier cas, il s'agit de dépénalisation, c'est-à-dire que on va décriminaliser la consommation et la détention de drogue. Les consommateurs ne seront plus considérés la consommation et la détention ne seront plus considérés comme des délits, mais comme des infractions, c'est-à-dire qu'on ne mettra plus les gens en prison, oui. Et qu'ils devront payer une amende. Et la légalisation consiste à... Alors ça, c'est une véritable révolution à laquelle n'est pas encore parvenu le gouvernement mexicain, contrairement à ce qui se passe en Uruguay. La légalisation consiste à transformer l'État en un producteur, de drogue.
Oui. C'est vrai que l'Uruguay a été le premier pays au monde à légaliser la production, la distribution et la consommation de cannabis. Et la décision du président mexicain s'inscrit justement dans ce contexte de légalisation progressive de la marijuana sur le continent américain. Vous parliez à l'instant de l'Uruguay, on peut parler également du Chili, on cite la Colombie. Il y a 10 jours, le Canada a également annoncé son intention de légaliser la consommation et le commerce de cannabis d'ici un an. Ce qui a pesé aussi sur la balance, Jean Rivlois, dans la décision du chef de l'État, c'est qu'il y a eu un cas qui a ému l'ensemble de la population mexicaine. C'est cette jeune fille de 8 ans qui subissait 400 crises d'épilepsie par jour et son père se battait pour que sa fille puisse consommer de l'huile thérapeutique à base de cannabis pour, disons-le, moins souffrir. Et c'est ça aussi qui a pesé sur la balance, j'imagine.
Effectivement, donc, le président Peña Nieto, le 21 avril, a prôné la légalisation de la consommation thérapeutique de la marijuana, n'est-ce pas ? Et il s'agit effectivement d'utiliser cette drogue ou ses dérivés à des fins thérapeutiques et principalement pour soulager la douleur, comme est censé le faire également la morphine, qui est un dérivé de l'héroïne, n'est-ce pas ?
Alors Jean-Rive Loire, reste avec nous, on a reçu une autre question toujours concernant le Mexique et cette fois-ci le trafic de drogue. On reste donc dans la thématique qui vous concerne. Je rappelle que vous êtes spécialiste des phénomènes de violence et de corruption liés au trafic de drogue au Mexique. Serge, bonjour.
Bonjour Monsieur Gomez.
Vous êtes au Cameroun, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Oui, monsieur. Tout d'abord, permettez-moi de dresser une couronne de fleurs à la très sympathique Marie et à toute l'équipe qui vous accompagne.
Eh bien, merci pour eux, merci voilà. De vos encouragements. Vous avez fait bien de citer l'équipe sans qui on ne pourrait pas, évidemment, organiser tous les matins cette émission. On vous écoute, Serge.
Voilà. J'ai appris sur les ondes de RFI la découverte d'un nouveau tunnel de trafic de drogue long de 800 mètres entre les États-Unis et le Mexique. Alors, sait-on depuis combien de temps existe ce passage secret? Dans quelles circonstances a-t-il été découvert? Comment les trafiquants ont-ils pu creuser un si long tunnel sans que personne ne s'en aperçoive?
Ouais.
Et enfin, que sait-on des filières chargées de la distribution de cette drogue au Mexique?
Alors, vous avez beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre assez rapidement avec Jean-Rive Loire. C'est vrai que cette actualité a fait la une de nombreux journaux à travers le monde. 800 mètres remplis de cocaïne, de marijuana, un tunnel qui reliait le Mexique aux États-Unis. Alors, ce tunnel est présenté comme le plus long tunnel jamais découvert à la frontière entre la Californie et le Mexique. Vous confirmez, Jean-Rive Loire?
Oui, enfin, il est dans la norme des tunnels qu'on avait déjà découverts. Je vous rappelle qu'on a quand même découvert 13 tunnels depuis 10 ans dans cette zone qui se trouve donc à la frontière ouest entre le Mexique et les États-Unis, c'est-à-dire qui rejoint les villes de Tijuana et de San Diego aux États-Unis. Donc
Et pour être précis, Jean-Rive Loire, pour être précis, le tunnel découvert récemment reliait une maison justement de Tijuana à un terrain commercial à San Diego aux États-Unis.
Exactement, mais il y a déjà eu des tunnels similaires qui ont été découverts auparavant. C'est un grand classique du trafic de drogue entre le Mexique et les États-Unis. Les Mexicains sont spécialistes pour creuser des tunnels de la même manière que les gens de Gaza sont spécialistes pour creuser des tunnels et qui arrivent dans le Sinaï. Et donc chaque fois qu'on édifie des murs pour séparer des frontières, eh bien les habitants se débrouillent pour creuser des tunnels de manière à passer sous les murs, oui. Ou alors contournent les murs à leurs extrémités.
Et on se souvient encore de l'évasion spectaculaire d'El Chapo, le baron de la drogue mexicaine, qui avait pris la fuite alors qu'il était dans une prison hautement sécurisée. Il a pu donc s'échapper en empruntant justement un de ces fameux tunnels creusés par les narcotrafiquants. Que sait-on des filières chargées de la distribution de la drogue au Mexique? Vaste question que nous pose Serge. Vous pouvez y répondre en une minute ou pas?
Oui. Alors, je vous rappelle que le tunnel creusé par le Chapo, lui, mesurait 1,5 km de long, n'est-ce pas?
Ah oui, donc, il était plus long encore.
Plus long. Alors, pour ce qui est des filières, la ville de Tijuana est une ville stratégique parce qu'elle se trouve sur ce qu'on appelle la route pacifique du trafic de cocaïne entre la zone andine et les États-Unis étant le principal marché. Donc, il y a deux cartels côté mexicain là qui sont très importants, c'est le cartel de Sinaloa, du fameux Chapo Guzman dont on vient de parler, et puis le cartel de Tijuana justement, et ces deux cartels ont noué des accords, si vous voulez, pour que la ville de Tijuana s'ouvre au cartel de Sinaloa de manière à permettre à ce dernier d'acheminer sa drogue aux États-Unis. Alors c'est intéressant de voir qu'il y a des accords entre les différents cartels de manière à contourner les politiques répressives donc qui sont mises en place par les différents gouvernements, que ce soit le gouvernement mexicain ou le gouvernement américain.
Merci beaucoup Jean-Rive Loire d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne d'RFI et d'avoir répondu donc aux questions des auditeurs. On a reçu plusieurs questions concernant le Royaume-Uni. Vous savez que dans deux mois maintenant, le 23 juin, les Britanniques vont se prononcer sur le maintien ou non de leur pays au sein de l'Union européenne. Ménard, bonjour.
Bonjour Monsieur Wan.
Vous nous appelez de Douala, vous êtes au Cameroun. On vous écoute.
Oui, tout à fait Monsieur Wan. Il y a deux semaines, la campagne officielle pour le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne a commencé. et le Trésor britannique a publié un rapport très pessimiste en cas de Brexit. À ce sujet, je voudrais savoir quels sont les arguments avancés par le Trésor et que craint-il?
Alors, il y a 2 mois du vote. Alors, effectivement, les arguments avancés, c'est vrai que ce rapport a fait couler beaucoup d'encre en Grande-Bretagne. Catherine Mathieu est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Alors ce rapport, soyons précis, a été commandé par le ministre des Finances sur l'impact économique d'une sortie du Royaume-Uni. Certains vont dire oui, mais enfin c'est un rapport qui manque sûrement d'objectivité. Mais ce qui ressort, Catherine Mathieu, c'est que une sortie de l'Union européenne coûterait finalement très très cher aux Britanniques.
Oui, effectivement, mais je fais partie de celles et ceux qui pensent que ce rapport donne des chiffres très précis, alors qu'en fait, on manque de base pour dire clairement ce qui se passerait si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, quels seraient les impacts économiques. Alors, dans le cadre de ce rapport, qui est un rapport qui présente une estimation des coûts à long terme d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui chiffre à 4300 livres par an, soit à peu près 5000 euros les pertes de revenus pour les ménages britanniques, ce qui est un chiffre important.
C'est-à-dire que chaque foyer britannique risque de perdre plus de 5000 euros si leur pays se retire de l'Union européenne.
Voilà, selon les estimations faites par le Trésor britannique, et ce qui représente une perte de produit intérieur brut d'à peu près 6% à l'horizon de 2030. Alors le problème de ce genre d'estimation, c'est qu'on fait des hypothèses très fortes sur ce qui se passerait. Il faut bien voir qu'on n'a jamais eu le cas d'un pays qui sorte de l'Union européenne, donc on est obligé de faire des hypothèses, et en particulier ce qui se passerait en termes d'accords commerciaux. Et ce rapport fait l'hypothèse qu'on n'arriverait pas à mettre en place très rapidement un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le reste de l'Union européenne, qu'il y aurait des barrières douanières, qu'il y aurait des réductions des échanges extérieurs, donc des pertes en termes d'exportation, des coûts en termes d'emploi pour l'économie britannique, et des pertes d'investissement direct, des baisses de productivité, enfin un scénario qui est très très noir. Et dont on peut dire qu'il est très très fragile.
Donc sans être partisan, on peut dire, Catherine Mathieu, que le Brexit serait un coup dur pour l'économie britannique et pour le portefeuille des citoyens britanniques.
Eh bien, je n'en suis pas convaincue. À très court terme, je pense que oui, parce que effectivement, les entreprises hésiteront à investir. Il y aura sans doute des fluctuations sur les cours de la livre, des fluctuations de cours boursiers. Donc, à très court terme, un impact négatif sur la croissance. Mais à plus long terme, je pense que très rapidement, on mettrait en place des accords de libre-échange entre le Royaume-Uni et le reste de l'Union européenne, parce qu'il faut bien voir que le Royaume-Uni représente un marché important pour nous. Aujourd'hui, c'est notre premier partenaire commercial, le premier excédent pour la France. Donc, il y a de ce côté-ci de la Manche, comme de l'autre côté, un fort intérêt à ce qu'on mette en place rapidement des accords de libre-échange. Et dans ce cas, les hypothèses très négatives qui sont au cœur de ce rapport britannique tombent largement.
Merci beaucoup, Catherine Mathieu, d'avoir été avec nous. On avait prévu d'autres auditeurs, d'autres questions sur justement ce référendum. Il nous reste quasiment 2 mois avant que les Britanniques aillent voter. Donc on aura l'occasion certainement de vous rappeler et de répondre à nos auditeurs. Merci à tous de votre fidélité. Restez avec nous dans un instant, le point complet sur l'actualité. On reviendra tout de suite après, dans 10 minutes, pour lancer notre débat sur la situation au Congo-Brazzaville, dans le département du Poule. Que se passe-t-il dans ce département depuis maintenant 3 semaines? Il y a eu certes des opérations militaires, des bombardements qui, dit-on, ont cessé. Reste à savoir maintenant combien de personnes ont été victimes de ces bombardements. Un membre de l'opposition, et non des moindres, Guy Brice Parfait-Colella, exige une enquête indépendante. Qu'en pensez-vous? Est-ce suffisant? Nous en parlerons évidemment. Le standard reste ouvert. 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Priorité santé. Claire Edon.